session privée, Émilie Simon, Daphné.
J'aime l'ardeur des battements de ton cœur.
Constance Amio.
Personne ne voit ce qui se passe.
Et Junior.
Déjà trop tard, tu t'effondres pour pouvoir chasser les ondes. Comme à chaque fois que tu la vois.
France Inter vous invite au Trabendo Intercession.
Un rendez-vous pour découvrir sur scène les artistes de demain, diffusés dès aujourd'hui sur France Inter.
Avec Le Parisien et Aujourd'hui en France, à retrouver aussi bientôt sur l'antenne de France Inter.
Toutes les infos, les réservations,
sur franceinter.fr. France Inter,
la voix est libre.
Eh bien c'est parti, Daniel Mermet, là-bas si j'y suis, oui, oui. Non.
Bonjour Daniel. Excuse-moi Daniel, mais ce n'est pas à toi que j'ai envie d'adresser mes remerciements aujourd'hui, mais à Valentine. Nous voudrions tous lui dire merci. Merci Valentine, merci d'être vivante et de nous rappeler à notre humanité. C'était Luc de Rennes.
Ah Daniel, tu m'as fait chialer d'émotion. Bravo de nous aider à comprendre ce qui s'est passé au Rwanda. Tu nous montres ça mieux que la télévision et tu fais bien ton boulot, qui est de faire sentir ce qui se passe et de nous aider à réfléchir comment faire autrement. Continue, c'est important. Salut à tous, c'est Antoine de Sarzeau.
Oui, bonjour Daniel, je suis ravie d'avoir entendu l'émission aujourd'hui là sur Valentine du Rwanda. Et je suis surtout très émue parce que j'avais entendu la première émission et j'en frissonne encore de l'avoir réentendue. En tout cas, je suis ravie que Valentine soit en bonne forme, je dirais. Elle vit aux États-Unis, c'est bien. J'étais ravie d'entendre sa voix. Et je souhaite qu'elle ait une belle vie, une longue vie. Et surtout que la paix règne au Rwanda. Voilà. Eh bien, c'était Juliette de la Vallée du Gapo. Merci, Daniel, pour tes émissions.
Bonjour, merci pour les émissions. Ici, c'est Bruno. Il y a 20 ans, j'étais de 93 à 95, donc j'ai eu droit à la totale, Burundi-Rwanda qui explose. Je passerai sur l'histoire de Tutsi de Hutu, parce qu'on est bien loin d'un conflit ethnique, à mon avis, c'est beaucoup plus compliqué. Il faudrait rentrer dans les histoires de royauté, de castres et de clans, voire de collines. Mais je voulais juste réagir sur une chose, là, j'ai encore entendu, une fois de plus, la France mise en cause, la France génocidaire, etc. Il est vrai que la France a longtemps armé les militaires et rwandais et burundais. Il est vrai que tout le monde savait qu'il y avait des listes, mais il y a aussi d'autres questions à se poser. Pourquoi, par exemple, notre brave Kagame a-t-il attendu 15 jours avant d'intervenir pour essayer de sauver ses frères alors qu'il y avait des troupes du FPR dans Kigali, qu'il avait tout à fait la possibilité d'avancer très vite et de sauver des milliers et des milliers de ses concitoyens? Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est: comment se fait-il qu'une fois qu'il a pris le pouvoir, les gens qui ont survécu ont été considérés comme des parias par les troupes de Kagame? Voilà, ça sera aussi des questions peut-être à creuser un jour dans la bastille Jéchi. Allez, à bientôt, j'ai encore les boules 20 ans après. Salut.
Merci encore pour cette émission avec Valentine. En ce qui concerne le Rwanda, on oublie aussi une donnée fondamentale quand même, parce que c'est important pour les peuples, surtout les peuples qui sont croyants, le rôle de l'Église. Le rôle de la foi. Il me semble quand même qu'on peut mettre le génocide rwandais encore sur le compte de la religion catholique, hein, après de nombreux autres génocides dans le passé. On n'a pas entendu le pape, hein, parler de ça, on n'a pas entendu l'Église s'exprimer en quoi que ce soit, demander pardon aussi pour ces prêtres qui ont exhorté les Hutus à tuer les cafards. Voilà, c'était juste un petit commentaire comme ça en passant. Bien sûr, c'est mon anticléricalisme primaire qui parle, mais voilà, je pense que c'est quand même important comme donnée. Bon, merci Marie-Lou.
Hier soir, on avait la réunion du journal qu'on fait ici dans le canton de Fayence. Et puis, comme bien souvent, ça a traîné après la réunion et on a tchatché un petit peu en buvant un coup. Et chacun a parlé de ce pourquoi il s'était engagé dans l'idée du collectif, depuis qu'il a une conscience politique, comment c'est venu. Ben Marif, elle a parlé de toi, Daniel. Elle a parlé d'il y a 20 ans, elle a parlé de ses reportages sur Valentine et le Rwanda. Et c'est ce qui lui a mis le pied à l'étrier. Voilà, c'était pour te remercier et puis continue. Comme ça. Allez, ciao, vive, portez-vous bien.
Merci pour tous ces messages, on est très touchés et on fait savoir ça à Valentine qui vit aux États-Unis désormais. Oui. Non, c'est pas l'anticléricalisme que de s'intéresser au rôle de l'Église et à l'influence de l'Église dans la généalogie du génocide, notamment l'Ordre des Pères Blancs, notamment l'Internationale démocrate chrétienne, qui a joué un rôle très très important. Le roi du Rwanda, dans les années 20, s'est converti au catholicisme et ça n'a pas été pour rien dans l'esprit de soumission qui peut expliquer en partie, mais c'est toujours en partie, l'organisation, la possibilité qui a été offerte aux architectes de ce génocide d'avoir de disposer d'une main d'œuvre, oui, aussi docile et conditionnée. Ça, c'est la généalogie du génocide, mais c'est bien de s'intéresser à ça, c'est nécessaire. Mais c'est aussi important de connaître les suites de ce génocide. Et ça a opéré comme les métastases d'un cancer. Le génocide a entraîné des massacres et des guerres dans la région, avec des centaines et des milliers de victimes lors des deux guerres du Congo. On avance des chiffres de 3 millions, de 4 millions de victimes dans ces guerres. Et l'enjeu principal, c'est bien sûr les ressources du Nord Kivu. Le scandale géologique, comme on dit, le Nord Kivu, qui est une des régions, la région est de la République démocratique du Congo. Et ressources, or, pétrole, cobalt, cassiterite, et puis surtout le coltan, le fameux coltan, qui est présent dans nos portables, dans les appareils qui permettent que vous m'écoutez. En ce moment, eh bien, il y a du coltan dans nos portables, dans nos ordinateurs, dans nos téléphones. Et pour beaucoup, il vient de là. Donc c'est un enjeu extraordinaire. Et la présence des forces réactionnaires hutus, des extrémistes hutus dans cette région, ont fourni le prétexte pour le Rwanda d'entrer dans ce pays et de mener des guerres qui continuent encore aujourd'hui. Vous avez entendu parler du M23 et régulièrement les rapports des Nations Unies accusent Kigali, accusent Kagame nous accuse, nous autres Français, de complicité dans ce génocide. On peut voir là une diversion par rapport à ce dont il est accusé lui-même dans cette région du monde, parce que voilà qu'il lui fournit des ressources formidables, aussi bien au point de vue économique, ressources, stratégie, etc. Cette région, au temps de Léopold II, c'était le magnifique gâteau africain. Et bien ce gâteau africain continue de faire des envieux et surtout beaucoup, beaucoup de victimes. Alors, on va aujourd'hui essayer, on va retourner, on y était en 2009 ou 2010, dans cette région. On va aller à Goma, on va aller dans le Nord Kivu, on va aller à Rutshuru, où on va découvrir des Hutus, les massacres des Hutus. Parce que en 96 et 97, enfin d'abord en 94, avec l'opération Turquoise, vous vous souvenez, la fameuse opération Turquoise, très ambiguë, a permis l'exode des Hutus du Rwanda, des centaines de milliers, vous vous souvenez sans doute de ces images, c'était il y a 20 ans, de ces Hutus qui sortent du pays, et parmi eux, ben, il y a aussi bien le gouvernement lui-même, les responsables du génocide, les acteurs, les génocidaires, et puis des Hutus qui ne sont pas impliqués dans le génocide, sans parler de l'armée rwandaise, les phares, tout ça, ça passe du côté du Zaïre. Ça entraînera, vous vous souvenez peut-être, une épidémie de choléra. Et comme il y a beaucoup de médias à cause de l'opération turquoise, eh bien, cette épidémie de choléra prendra autant et même plus d'importance dans l'actualité que le génocide. Et dans les esprits aussi, on confondra les deux drames. C'est cette présence de ces Hutus qui s'additionne à une présence plus ancienne de Hutus dans cette région, à une présence plus ancienne de communautés Tutsi aussi dans cette région, ça complique déjà un petit peu les choses, qui va entraîner ces guerres successives dans lesquelles le Rwanda de Kagame jouera un rôle très important, prééminent à son avantage, je le disais, stratégique et économique. Voilà ce que nous allons essayer d'expliquer aujourd'hui. J'ai bien dit que ces guerres du Congo, les deux guerres du Congo, avaient fait entre 3 et 4 millions de morts. Cette imprécision mérite que nous nous penchions, s'il nous reste un tout petit peu d'humanité, sur cette histoire, même si elle est un peu complexe. Voilà notre sujet du jour. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale au 01 56 40 37 37.
Bonsoir Daniel, bonsoir à toute l'équipe et à tous les AMC. Ce mercredi 9 avril, le Café Repère au Cellier à Bokeo dans les Côtes d'Armor, nous parlerons de la crise et radicalisation de la société. Cette crise qui dure nous mènera-t-elle vers un front populaire comme en 36, ou plutôt vers un front national? La progression des extrêmes et des intégrismes amène sérieusement à se poser la question. L'histoire se répète-t-elle? Donc, au Cellier de Bokeo, mercredi 9 avril, de 19h30 à 21h. Merci.
Bonjour à toutes et à tous, AMG brétiliens et brétiliennes. Comme chaque deuxième mercredi du mois, le café repère du bar L'Entretemps à Liffré se réunira le mercredi 9 avril à partir de 19h. Cette fois, pas de thème particulier. Nous discuterons tout simplement autour de l'actualité, comme par exemple les élections municipales, les bonnets rouges qui font à nouveau parler d'eux, ou tout autre sujet qui nous viendront à l'esprit. Donc, nous vous attendons ce mercredi à partir de 19h à L'Entretemps à Liffré.
Salut Daniel, c'est Thierry. J'ai versé quelques larmes quand tu as appelé la petite Valentine. Va la voir et raconte-nous encore son histoire. Merci Daniel. Embrasse-la de ça. Au revoir.
Moi aussi je peux vivre quelque chose.
Bon, Ami, vire ma famille, on aurait 17 personnes.
Dans ma famille, on a aussi tué 17 personnes.
Des femmes, des garçons, des filles et des vieux. Je venais à notre cousin,
c'était par machette ou par hache sur la tête.
Il
y a aussi mon grand frère qui était handicapé. Il marchait avec des fers qui étaient déjà comme des supports. Alors ces fers, nous les avons rencontrés dans la fosse commune.
Ils ont tué votre frère qui était handicapé et vous avez retrouvé les béquilles dans la fosse commune.
Oui.
Les gens nous ont traumatisés et nous avons besoin que la justice soit faite.
Il y a un risque, si moi tu nous risques de faire la rébellion.
Il y a un risque que nous tous nous fassions la rébellion.
Si la justice n'est pas faite, il y a un risque de rébellion. Il y a un risque que toute l'amertume, tout le ressentiment et le sentiment d'injustice finissent par rendre les gens violents et qu'ils s'organisent en milice. Et on se dira c'est ethnique.
Oui, on va dire que c'est ethnique.
Salut, c'est Daniel Mermet. C'est là-bas que j'y suis avec Guy Van Til, Rwanda, Valentine.
Flight number 2, arriving from...
Ah là oui, c'est prodigieux. On voit un nuage rougeoyant au-dessus du volcan. Dans l'obscurité qu'on distingue à peine le volcan, mais on voit un nuage dans le noir, rouge-orange.
Ah ça, j'ai jamais vu ça de ma vie. Une lueur rouge.
C'est encore un peu couvert, mais je pense que d'ici quelques heures, ça sera tout rouge, ça sera très beau.
Si on ne le sait pas, on peut prendre ça pour un bout de coucher de soleil. Mais ce n'est pas un coucher de soleil.
Non, non. Alors,
c'est quelques lueurs pourpres comme ça.
Ça, c'est la lueur du lac de lave qui se trouve dans le ventre du volcan. Alors, pendant l'éruption de 2002, il y a un détail important que je voulais vous montrer ici. Ici, c'est trouver les réserves du carburant. Et il y a eu une sorte de miracle terrible. La lave s'est arrêtée juste à côté des citernes. Et là, on ne sait pas ce qui s'est passé. Que la lave s'est arrêtée juste à côté des citernes, j'ai trouvé ça extraordinaire. Parce qu'on a vu combien les stations d'essence qui étaient en ville, quand ils étaient brûlés par la lave, on voyait une sorte de bombe qui montait à 50, 100 mètres en haut, avec un bruit assourdissant, c'était quelque chose.
Vous voyez une bande de ciel très claire, clair-obscur, et au-dessus, un énorme ciel de plomb noir comme de l'encre. Et dans ces ténèbres, cette lueur rouge, comme en effet, vous n'en avez jamais vu, c'est le reflet du lac de lave dans le ventre du volcan. Nyiragongo, c'est lui le personnage principal de cette ville terrible, terrifiante, vivante, noire, bizarre de Goma, une de ces villes où il s'est passé plus de choses que dans la plupart des autres endroits de cette planète, au moins dans la période récente. Mais le personnage principal s'appelle Nyiragongo. Il est vivant, c'est le plus vivant et le plus dangereux des volcans africains. 20 millions de mètres cubes de lave en 40 minutes en 1977. 500 morts. Oh, 500 morts, c'est pas beaucoup dans cette région. Un petit festin de volcans. Les morts dans ces régions se comptent par milliers, dizaines de milliers. On est à Goma. Franchement, on voudrait vraiment vous intéresser à cette histoire. Il faut rappeler où est le Rwanda. C'est un tout petit pays à côté de cet énorme Congo, RDC, République démocratique du Congo, depuis 1997, mais qui auparavant s'appelait, vous le savez, le Zaïre. Or, pour mieux dominer, le colonisateur belge a exacerbé le clivage au Rwanda entre les Hutus et les Tutsis, en jouant les uns contre les autres, ce qui a entraîné une suite de conflits et de massacres à partir de la fin des années 50. Du coup, des Tutsis s'exilent, surtout dans les pays voisins, notamment en Ouganda, et de là, ils vont préparer le retour, la revanche, et constituent une armée très solide qui s'appelle le FPR, Front Patriotique Rwandais, et qui va rentrer au Rwanda en 1990 pour reprendre le pouvoir et avancer jusqu'à Kigali en 1994. Là, pour se défendre et en représailles, ce qu'on appelle le Hutu Power, c'est-à-dire les Hutus radicaux, vont se lancer dans une suite de massacres organisés. C'est le génocide des Tutsis du Rwanda, 800 000 victimes, dit-on, 1 million, dit-on. En 100 jours, ce génocide se déroule au su et au vu du monde entier qui regarde et ne fait rien, ni les Nations Unies, ni les États-Unis, ni l'Europe, ni d'autres pays africains. Personne n'arrêtera les tueries. Enfin, en juin 1994, la France, qui a à l'époque pour président François Mitterrand et pour Premier ministre Édouard Balladur, lance l'opération turquoise pour assurer la protection, non pas des Tutsis, mais des Hutus. Et grâce à cette opération turquoise, par dizaines de milliers, les Hutus vont se réfugier à ce qui est à l'époque encore le Zaïre, et vont se réfugier notamment là où nous sommes, c'est-à-dire à Goma. Au total, on estime, on avance parfois le chiffre de 2 millions de réfugiés qui s'installeront le long de la frontière avec le Rwanda. Alors parmi ces réfugiés, il y a les membres du pouvoir Hutu, les forces armées, les instigateurs et les exécuteurs du génocide, mais il y a aussi des Hutus tout à fait ordinaires qui ne sont coupables de rien, mais qui redoutent au Rwanda les représailles des Tutsis qui vont prendre le pouvoir en juillet 1994. Malgré la présence des nombreuses ONG, très vite, le pouvoir Hutu, le Hutu Power, va prendre le contrôle des camps de réfugiés, va préparer le retour et la revanche. C'est du moins ce que redoute et dénonce Kagame, le général Kagame, qui est l'homme fort du Rwanda, homme fort non seulement à cause de la victoire militaire, de sa victoire militaire, mais à cause de l'énorme capital victimaire que lui confère le génocide. La lâcheté de la communauté internationale lui donne une totale impunité, une totale immunité, plus rien ne l'arrête. La menace que constituent les camps de réfugiés Hutus au Zaïre lui fournit le prétexte d'entrer au Zaïre. En vérité, au Zaïre, d'autres choses attirent le Rwanda de Kagame. Le Rwanda n'a aucune ressource, alors que le Zaïre n'a que ça. Mais pour ça, il faut faire tomber Mobutu, qui est encore au pouvoir, et s'imposer au Zaïre. Alors, le Rwanda va choisir un opposant à Mobutu, une sorte d'homme de paille, d'idiot utile, et ce sera Laurent Désiré Kabila qui se retrouve à la tête des AFDL, Alliance des Forces Démocratiques pour la Libération du Zaïre, fait un mélange de forces Tutsis, du Rwanda, du Burundi et de l'Ouganda. Tout ça se passe en 1996. Et la première grande opération du AFDL, ce sera l'évacuation du camp de Mugunga, qui est juste à côté, à la sortie de Goma. Il s'agit d'un camp où on a 750 000 personnes qui sont réfugiées, là, serrées les uns contre les autres. Alors en quelques jours, plus précisément le 16 novembre 1996, l'AFDL va procéder au nettoyage du camp. En quelques heures, 600 000 personnes vont être poussées vers la frontière, vers le Rwanda. Rentrer au Rwanda, ils rentrent 600 000. Mais il en restera 120 000, 150 000 qui vont être pourchassés, qui vont être massacrés, qui vont disparaître. Il y a bien longtemps que, déjà en 97, puis en 99, puis en 2000, etc., on a publié des rapports, des témoignages, des reportages nombreux pour dénoncer ces massacres et ces tueries qui vont se succéder visant, évidemment, en principe, le Hutu Power, ceux qui veulent revenir au Rwanda et qui sont les génocidaires, bien évidemment, mais pas seulement. Ce sera, en général, les Hutus, pour ce qu'ils sont en tant que Hutus, qui seront persécutés sur 2000 km entre Goma et Kinshasa, à travers la forêt équatoriale, des civils dont 200 000 ont péri d'inanition ou de maladie ou exécutés par des unités spéciales lancées depuis Kigali. C'est peu à peu cette vérité, ces témoignages, ces enquêtes, ces recherches qui émergent. C'est lent, c'est très lent. La vérité va ainsi.
Kelele, bango wana bazoya. Abomba mbongo na siali banga ebembe. Bayebi sake kupote la ebele. Atankale apolungwa loko langansi. Kalate ako kanisa oya ye mike. Ndobo na maipe izali kuningana. Bakulu tuba pesa ekombo wangu alima. Bayeba lande buda walas na bamulona. Yeba yepono iba nani asumba na nganda. Nka, nazali kolona wa. Nka, yaya kwa nkolo. Menga mantote. Mukulu na kukita Kinshasa nzila nangana kamba. na uchiko si salika momo kile tinda malekela bayuma kasi bankaba timba togia bikedi kuteta pe bandika pepo na mikiripo na tokola na kimia kelele kelele makelele te kelele kelele pangwana basuya kelele kelele makelele te kelele kelele pangwana basuya kaka oyo kili kambwango okangiti na makambo na uti koloba ete ososoli penza makambo na uti koloba o ezali mokombo so mokongo pembe yaya kwankolo tozali banka bana bakongo bana baluba bana bangala bana banande buza wa buza.
Là, il commence à pleuvoir, là. Mais là, en contrebas du terrain de foot...
Donc là, après les toilettes, en bas, là-bas,
ouais.
Il y a une fosse commune.
Et on a retrouvé beaucoup de corps.
Oui, il y a beaucoup de corps. Donc si on y va, on vous raconterait des fils en fer. On a
autour.
Déjà isolé, oui, autour, pour signaler qu'il y a une fosse commune.
Il y a une fosse commune, là. Ouais. Donc, il y a combien de corps dedans, tu sais?
C'est beaucoup, c'est beaucoup. Donc il y a là-bas, il y a encore ici en haut. Donc ici, à quelques 200 mètres, il y a aussi d'autres corps. Donc il y a des fosses communes qu'on avait faites pendant la guerre de l'Orange, des Sérékabdé, qui ont tué beaucoup de gens ici. Même nous, nous avons perdu nos grands frères, nos pères. Je suis orphelin.
Tes parents étaient tués à ce moment-là?
Oui, mes grands frères. On ne les tuait pas avec les cartouches, c'est avec des petits houx.
Des petites houx.
Et oui, des petites houx.
Qu'on travaille pour les champs.
Pour planter. On les appelait les kafouni. Donc on le prenait puis on fait comme ça quand dans la tête.
On tapait dans la tête.
Oui.
Et toi, il y a les gosses qui jouent, il y a les grands qui jouent au foot là. Et toi, tes parents sont morts comme ça?
Oui. Ils sont morts, et mes grands frères, mes deux grands frères.
Et ils sont enterrés où?
Non, on a manqué le corps, donc ils sont aussi dans les fosses communes. On ne sait pas si on peut retrouver les corps dans quelle fosse commune. Non, on peut seulement détecter avec des machines. On dit qu'il y a des appareils qu'on utilise pour détecter si des ADN, je ne sais pas.
ADN, c'est ça? ADN.
Oui.
Qui reste mortel.
Ça peut signaler que mes ADN,
ouais.
C'est comme les ADN de mon père. Et directement, ça signale que
fait.
C'est là où le corps de mon père était enterré. Donc, on les tuait et les jetait en désordre comme ça dans les fosses communes. En fait, moi, je ne savais pas si là, il y avait une fosse commune.
Oui.
La MONUSCO.
Les Nations Unies,
les Nations Unies. Ils sont venus ici se rendre compte. Ils ont essayé de déterrer quelques corps. Mm-hmm. On a vu avec nos propres yeux. Jésus témoin oculaire. On a vu des crânes, les os, les fémurs, tout ça, on a vu
c'était
là-bas.
C'était les enquêteurs de l'ONU qui faisaient l'opération, le rapport de mapping, ce qu'on appelle, sur tous les crimes commis dans... le Congo entre 1993 et 2003.
Mais dis donc, là, il pleut moins, on peut peut-être avancer un peu jusque-là.
Regarde, on peut aller voir.
On peut aller juste là-bas. Quoi.
Oui, c'est un problème.
Voilà, là, on est à Rutshuru, c'est au nord de Goma. Il y a une ambiance de trouille. On est venu pour... des témoignages sur ces massacres, sauf que tout le monde a peur de parler. Et pourtant, vous avez entendu ce jeune homme, eh bien, c'est sa famille, c'est les siens qui sont dans ces charniers, sous cette terre entourée de fils de fer barbelés. Et c'est les enquêteurs des Nations Unies qui sont passés par là il y a quelque temps. Mais la peur règne parce que très longtemps, cette région de Rutshuru, jusqu'à une époque extrêmement récente, était sous le contrôle du CNDP. Le CNDP, c'est une force armée sous contrôle, on va dire, rwandais. Il y avait cette présence sur cette zone, habitée généralement par des Hutus. Mais pas des Hutus rwandais, des Hutus congolais qui habitent dans cette zone. Et c'est donc ces Hutus congolais qui ont fait l'objet de ces massacres organisés et prémédités.
C'est ici.
C'est ici, là?
Oui, c'est ça.
Ah oui, on voit les barbelés. C'est vraiment un flanc de coteau.
Il y a le trou, on a entouré avec des fils barbelés. C'est ici. Là où il y a une fosse commune. Ah.
Et ça, tout le monde le savait, évidemment.
Les vieux du village le savaient.
Ils le savaient.
Oui, c'est nous les enfants qui ne les avons pas parce qu'on avait fui. On avait fui dans les montagnes là-bas. J'avais 10 ans.
Il y a beaucoup de fosses communes dans le coin?
Oui, même là-haut, à 200 mètres d'ici. Même à Kiwanja, partout. Dans le territoire, il y a beaucoup de fosses communes.
Ouais.
On a connu beaucoup de problèmes dans ce territoire. À chaque année, on peut avoir des morts, chaque année.
Alors c'est mouillé là, ça tombe bien la pluie.
Oui,
là.
Oui.
C'est plus tropical.
Les crimes sont très sérieux. Bien sûr, ce n'est pas un jugement. C'est une collection de preuves qui pourrait conduire à une commission des crimes, tels que des crimes de guerre, puisque le droit humanitaire interdit le meurtre de civils.
Naventem Pillay, au commissaire du Conseil des droits de l'homme aux Nations Unies.
Le rapport vise des crimes contre l'humanité qui pourraient, par exemple, mener au génocide.
1er octobre 2010.
Mais il énonce clairement que cela ne peut être qu'un tribunal qui détermine si les crimes suspectés ont été commis.
Si on devait faire de la poésie, on dirait que c'est un trou de verdure, hein. Des petites fleurs, très jolies. Le lieutenant-colonel nous fait signe de nous approcher.
Attention aux barbelés.
Ah oui, il faut enjamber les barbelés.
C'est un drôle d'endroit. On a franchi des barbelés, on est au flanc de la colline, le sol est défoncé, on voit qu'il y a eu des recherches, des fouilles.
Ici, vous êtes au-dessus des gens, ici, partout ici, ce sont des personnes.
C'est des corps, c'est un charnier.
Là, on a les sons des gens.
Mais est-ce qu'on sait combien de corps sont là-dessous?
Partout ici.
Partout. Ça, c'est parce qu'il y a l'érosion. L'érosion, quand il pleut souvent.
Ça fait glisser la terre sur
oui,
les corps.
Oui, oui. Oui.
Qui sont les responsables de cette tuerie, d'après vous?
Mais c'est qui? Ce sont les hommes en armes.
Donc c'est une histoire qui s'est passée d'après le passage de l'AFDL.
L'AFDL. C'est-à-dire l'armée de Laurent Désiré Kabila.
Voilà. Oui. Ils étaient appuyés à l'époque. Dans le commandement, je pense, serait entre les mains du Rwanda.
Le commandement, d'après vous, mon lieutenant-colonel, c'est le Rwanda qui dirigeait ces opérations.
Oui, parce qu'à l'époque, l'actuel ministre du Rwanda, celui qui était le commandant en chef de la troupe-là, c'est James Kabarebe.
James Kabarebe.
Oui.
C'était lui, selon vous, le responsable des opérations?
Oui.
D'accord.
Qui est aujourd'hui ministre de la Défense. Du Rwanda maintenant. Même si lui n'était pas ici, mais c'est son homme.
Il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que des mauvais chefs.
Miel et Sikou.
Moi, ces jours-là,
Nilifikak.
Je suis arrivé.
Problème est à Kukakamata Tui Chumvi.
Je venais récupérer seulement les sels pour mettre dans la nourriture.
Parle.
À ce moment-là, ils ont fini leur rassemblement.
L'endroit
où on a tué, on nous a amenés tous là-bas. À notre arrivée, on nous a demandé les noms de tout et chacun. On m'a amené un militaire qui m'a accompagné jusque chez moi à la maison. Toute l'équipe avec qui on était a été tuée.
Tu as vu ceux qui se faisaient assassiner? Tu as vu ça avec tes yeux?
Oui, je les ai vus.
Pourquoi tu as été épargné, toi, alors?
Il est si cool, quoi, quand il bat, il y a un mot, n'a venu pas les fungues, quand il y a un pognon, quand il y a un dac.
Ces jours-là, c'était vraiment de la chance pour que vous échappiez. Parce que moi-même, je ne sais pas comment expliquer comment j'avais échappé.
Famille Bikwetu.
La famille Bikwetu.
La tata qui a ouïu, il y a un afficato pour assalimer à Yves.
Je venais juste leur dire bonjour.
Vous ficatez pas quoi, si bête, il y a un couteau là.
Et à mon retour, quand je suis rentré, j'ai trouvé tout le monde était déjà tué.
Ces hommes qui sont dans cette chambre, dans cette auberge, quelque part vers Rutshuru, ont longtemps hésité avant de venir jusqu'à nous. Nous, nous sommes des Muzungu, c'est-à-dire des Blancs, et nous sommes extrêmement visibles. Si quelqu'un nous voit ensemble, ça risque de coûter très cher à ceux qui viennent témoigner. La région est loin, loin, loin d'être sécurisée. Mais ils veulent absolument parler quand même. On a pris un certain nombre de précautions, un certain nombre de diversions aussi. C'est eux qui ont choisi absolument. Ils veulent parler, ils veulent être entendus, ils veulent que vous les entendiez. Pourquoi ? Parce que voilà, ces crimes ont bel et bien eu lieu il y a des années maintenant, sans qu'ils puissent véritablement le dire, sans que le monde accepte de se pencher sur leur souffrance, sur leur deuil infaisable, sur ces morts sans sépulture. On veut absolument qu'il y ait eu un génocide des Tutsis du Rwanda et que tous les autres soient mauvais, méchants et bannis à jamais. Ça se passe hélas jamais comme ça. Nous avons appliqué en 1994 une grille de lecture mémorielle sur ce qui s'est passé au Rwanda, qui est une grille de lecture mémorielle européenne. Or, l'Afrique n'est pas l'Europe et les choses sont allées de façon différente. Et les mémoires sont différentes, sauf que là, il y a une volonté simplement d'exister, de faire exister cette mémoire douloureuse.
C'était le 30 octobre 1996. Nous avons eu des menaces. On a appelé la population qui avait fui en brousse, disant qu'on va faire la réunion. Et le jour même, on a éliminé les gens à la réunion. On a tué les gens, les jeunes garçons, les femmes, les vieux. À Kiringa. Même mon fils, mon premier fils garçon est parmi les victimes.
Vous aviez fui, vous?
J'ai fui. J'étais à l'écart.
Vous étiez présent, vous?
Oui. À ce moment-là, j'avais 12 ans. C'était un certain mercredi, le 30 octobre. On a fait appel à la population comme quoi il y aura une réunion. Pendant la réunion même, on a tué les gens. C'était la nuit, c'était un massacre. C'était avec des petites houes comme ça.
Des houes, des ce qui servent pour faire le jardin, pour travailler la terre.
Oui, oui.
Mais comment s'est déroulé le massacre? Qui l'a vu? Qui l'a vu le massacre de vous trois?
Le massacre a eu lieu. Nous avons fui et nous avons des âmes qui ont été perdues là-bas. Et la méthode que les messieurs ont utilisée pour massacrer nos frères et nos sœurs, ils ont creusé des trous et puis ils ont massacré les gens. Et les preuves sont tangibles et puis visibles. Ils ont quand même creusé, enterré les gens vivants.
Ce qu'on vous parle, c'est juste, c'est tellement juste. On a trouvé mon fils moi, né, est parmi son papa. Les grands frères de celui-ci qui étaient de mon côté ont tué les gens et les mettre dans un trou des oissins.
Des toilettes. Plus de 50 qu'on avait quand même enterré vivants.
Dans une fosse sceptique, dans des fosses sceptiques.
Oui.
Raconte-nous un petit peu la situation en général ici, dans la région.
Ah oui, en fait, ce qui est vrai, c'est que maintenant, il y a un problème très sérieux par rapport à l'insécurité. Hein, parce que chaque jour, on enregistre des morts partout. Parce que chaque matin, quand on se réveille, il y a des morts, il y a des pillages, il y a des viols qui se font. Et ce qui est aussi pire, c'est que même ici, dans la ville même, les gens ne dorment plus encore dans des maisons parce qu'ils ont peur d'être agressés la nuit. Et beaucoup d'histoires là qui sont en train de se passer dans cette cité de Rutshuru.
Alors ici, en principe, vous êtes sécurisé, entre guillemets, par l'armée congolaise.
Oui.
Et à l'extérieur, vous êtes, entre guillemets, menacé par des bandes armées qui relèvent d'un groupe précis ou pas?
Oui, les groupes précis, il y en a. Il y a l'FDLR,
les FDLR,
oui, oui.
C'est un groupe armé, déjà ancien, qui est constitué au départ des Hutus du Rwanda, qui sont venus là en 94.
Oui, 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 oui. En fait, ce sont ces gens-là. Mais maintenant, il y a aussi une coalition. Il n'y a pas que seulement des Hutus qui sont venus du Rwanda. Il y a aussi même des populations d'ici, notamment les Maïmaï, qui se sont coalisées avec les FDLR.
C'est ça. Qui c'est les Maïmaï?
Les Maïmaï, c'est des gens, en fait, par rapport, si vous suivez bien l'historique du conflit ici au Congo, surtout ici à Rutshuru, il y a eu, en fait, des milices par-ci, par-là, créées par des communautés. Alors, il y a des Maïmaï qui ont été créés par d'autres communautés, il y a des Pareco. Alors, tout ce monde-là, alors, s'est associé aux FDLR.
D'accord, pourquoi faire ?
Déstabiliser la région, parce qu'ils sont là, ils sont en train de piller, ils sont en train de violer, ils font tout ce qu'il y a comme abus.
Les forces rwandaises pour chasser les réfugiés, ça c'est en 96,
oui, oui.
Où il y a des forces qui viennent du Rwanda, domination Tutsi,
oui.
Qui viennent ici pour pourchasser les Hutus qui restent ici. Pourquoi ? Il y a deux raisons à ça. L'une, c'est que le gouvernement de Kigali craint que le pouvoir Hutu, le Hutu Power, se reconstitue ici et revienne au Rwanda, donc c'est une de ses craintes. Et l'autre but aussi pour le Rwanda de Kagame, c'est de venir ici, dans une région extrêmement riche, pour trouver des ressources.
Au-delà de ces deux raisons que vous avancez, il y a aussi une autre raison que peut-être même la communauté internationale n'a jamais compris. C'était la raison aussi d'exterminer tout Hutu, même les Hutus congolais. C'est comme cela, même quand ils sont arrivés, ils n'ont pas tué seulement les réfugiés rwandais, les Hutus rwandais, mais ils ont aussi exterminé, avec précision, avec objectif d'exterminer aussi même les Hutus qui vivaient ici chez nous.
Alors, revenons à cette époque-là, en 96, t'avais quel âge, toi?
J'avais 16 ans. Et il y a eu entrée de l'armée rwandaise. Sitôt arrivé ici, comme ils ont prétendu avoir une mission de venir chasser les Hutus, les FDLR, les génocidaires. Mais arrivé ici, qu'est-ce qui s'est passé? Les gens qui sont morts, ce ne sont pas seulement ces génocidaires-là, mais c'est plutôt beaucoup plus la communauté Hutu congolaise. Les gens qui sont morts dans mon quartier, est-ce qu'ils sont génocidaires? Non. Les églises qui ont été brûlées avec des gens, ce n'étaient pas des Rwandais, c'était des Hutus congolais. Les fosses communes que nous avons à Rutshuru, vous voyez à Kiringa, il y a d'autres à Busanza, partout là, ce n'étaient pas des Rwandais, ce sont des Congolais. Et même les gens qui ont fait ça, ils savaient exactement que ce n'étaient pas des Rwandais, c'était des Hutus congolais, innocents, qui ne savent pas ce qui s'était même passé au Rwanda. Comprenez que donc, ils sont venus, non seulement avec cette mission, mais aussi chercher à pérenniser leur pouvoir. Et pour pérenniser leur pouvoir, il fallait maintenant tuer toute personne qui s'est dit Hutu. C'est comme ça qu'ils ont même commencé à appeler des gens dans des réunions, dans des églises. Et puis quand vous êtes là, on met le feu. Il y a beaucoup qui sont morts.
C'est-à-dire qu'ils ont reproduit ce qui était arrivé au Tutsi du Rwanda.
Exactement. Ils ont même utilisé des coups de machette, ils ont utilisé même des haches, ils ont utilisé des houes. Taper les gens dans la tête et ils sont morts. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont creusé des trous, ils ont fait des fosses communes. Et je me rappelle, il y a même des endroits où on a déterré des os ici chez nous au Congo, qu'on a amené au Rwanda et qu'on a mis même dans des musées au Rwanda, soit disant que ce sont des Tutsis qui sont morts, alors que c'est des os qui ont été déterrés ici chez nous. Et on a amené au Rwanda et on montre aux gens que non, voilà, il y a eu génocide. Et maintenant, là, la communauté internationale, quand les Blancs arrivent, ils disent non, non, là, tout le monde maintenant doit pleurer, il faut amener de l'argent, il faut faire ceci au détriment des autres.
Hey,
endroit tout tranquille maintenant. Voilà, à côté, il y a du maïs qui pousse, un arbre d'un manguier.
Ici, c'est bien. Toute la végétation, vous voyez, elle est bonne.
Et voilà, on arrive dans une vieille maison abandonnée.
Oui, ça, c'était une maison d'un capitaine dans les temps, au temps du gouvernement de Mobutu. Alors, depuis 1996, c'est abandonné. Pour ce moment, on l'utilise comme une prison de la police nationale.
C'est pour ça qu'il y a des policiers qui sont là.
Les garçons là, Barbie, avec qui nous étions à Kiwanja,
il
est d'ici.
C'est sa maison.
Oui, c'est là où il reste. C'est lui qu'on avait tué, tous ses parents, ses frères, ici, et mis ici.
C'est-à-dire qu'il habite à 20 mètres de la fosse commune où repose le corps de sa famille.
Oui, c'est ici.
C'est-à-dire qu'ils les tuaient, comme on l'a dit tout à l'heure, ils faisaient des réunions, ils organisaient des
convoquaient
réunions.
Convoquaient tout le monde.
Tout le monde pour une réunion, un prétexte quelconque.
Mais encore, il prépare qu'il
rassurant. Et puis
cela
après.
Cela s'était fait pour une journée. Alors on est venu sensibiliser, nous avons un nouveau gouvernement, alors venez, nous allons vous montrer les chefs. Alors vous êtes invités dans une grande réunion, une réunion extraordinaire. Alors quand ils venaient, on les mettait, les uns étaient enfermés dans la maison ici et les autres de l'autre côté. Alors pendant la nuit, on venait récupérer un à un, après les avoir
attachés,
enchaînés.
Voilà, autour, on vit tranquillement, les maisons. C'est au milieu du village, là. C'est complètement au milieu du village. Là, il y a les latrines de la maison d'à côté.
Ici, on a tué beaucoup de gens. Même les noms, je les connais.
C'est-à-dire que tu connais les noms des gens qui sont là-dessous?
Je connais, oui.
Bon, 13 personnes.
13 personnes d'abord.
Katakata.
Le premier nom, c'est Katakata.
Ndachombonye.
Ndachombonye.
C'est deux. Marichare. Polo.
Il y a aussi Paul.
Mlani Bernard, papa.
Bernard, c'est mon père.
Maman, c'est Majijash.
Majija, c'est ma mère.
Le grand frère, c'est Capita.
Mon grand frère, c'est Capita.
Et Bernard.
Et Bernard, oui.
Et na Bienfait.
Bienfait aussi.
Nani, papa. Nani, Coco, Tate.
Oui, la grand-mère.
Mais elle s'appelle Nani Kui.
Son nom, c'est Kuiha.
Batoze, Bela.
Oui, ils sont nombreux, ceux qui ont été tués.
Milele mia nimboka yaneka kumuhini Kambinzembele mia nimboka lundi la mwana kusana.
Massacre génocidaire des Hutus du Kivu comme métastase du génocide des Tutsis du Rwanda. C'était le troisième volet de ce retour. Rwanda Valentine, un reportage avec Guy Ventil. Merci à Loïs Teguera de Pôle Institute, à Jacques Cabera, Évariste Akili, Albert Cambalé. À lire Les fantômes du roi Léopold, un livre de Adam Hochschild dont on nous a parlé déjà à cette époque-là, aux éditions Talendier. Et puis, le livre indispensable de Jean-Pierre Chrétien et Marcel Cabanda, chez Belin, Rwanda, racisme et génocide, l'idéologie amitique. Vous trouvez toutes les informations sur le site de France Inter, la rubrique émission là-bas, si j'y suis. Vous pouvez réécouter cette émission également sur le site là-bas.org. Et puis, il y a la page Facebook de là-bas, si j'y suis. La technique aujourd'hui, Julien Dumont et Nicolas Jaillot. L'émission a été réalisée par Franck Adhérer et Guillaume Giraud, préparée avec Jonathan Duon. Et Stéphanie Fromentin attend vos messages sur le répondeur de là-bas, si j'y suis, au 01 56 40 37 37. 01 56 40 37 37. Merci pour tous vos messages quotidiens. On oublie toujours de vous remercier. Et puis de nous féliciter de ce que ceux qui ne passent pas, qu'on ne peut pas sélectionner, qu'on ne peut pas garder, ne nous en portent pas plus de disgrâce que ça à notre égard. Et c'est de votre part très élégant et très chaleureux. On se retrouve demain à 15h pour là-bas si j'y suis. Dans l'immédiat, je vous laisse avec le camarade Hervé Pochon et son temps de Pochon.
Allez, 5, 4, 3, 2, 1 et 0. Et maintenant, sur France Inter, il va y avoir un temps de Pochon, mais ça ne va pas durer.
Moi, c'était un engagement dans le volontariat, le volontariat même international au début à Noisy-le-Grand. Et c'était un engagement auprès des familles et de vivre avec les familles et de mener l'action avec les enfants ici, ça avait un sens. Ben voilà, je restais ici le soir, les enfants je les voyais, les familles, je rentrais pas chez moi. Il n'y avait pas de coupure. Il y avait
vous aviez une vie qui était en harmonie avec votre engagement, quoi.
C'est ça, c'est ça.
Parce que vous êtes salarié chez ATD Quart Monde ?
Je touche une indemnité en tant que volontaire. La première année, c'est 450 euros. Et à partir de la deuxième année, 590. Et jusqu'à tant qu'on reste. Il n'y a pas de palier. On a toujours cette somme-là.
Et vous arrivez à vivre avec cette somme-là ?
Ben, y a le logement qui est en lien aussi avec l'association. Donc on paye une participation au logement, mais ce n'est pas un loyer.
Et qu'est-ce qui vous a incité à vous engager ? Vous avez quel âge ?
28 ans. J'avais toujours un pied dans le social. Moi, je viens de Nice. J'étais tapissier décorateur avant. Et je voulais vivre un engagement à plein temps et pas juste bénévolement pendant les vacances et que ça ait un sens vraiment.
Et votre métier de tapissier ne vous manque pas ?
Oh, je pratique de temps en temps, par plaisir, quand on me demande de faire une chaise, mais je le fais avec la personne. Je lui apprends aussi comment on répare une chaise, comment on recolle, donc ça en devient un passe-temps plaisir.
Bonjour à tous et bienvenue à Noisy-le-Grand, en compagnie de Guillaume, volontaire chez ATD Quart Monde. Vous avez la foi ?
En l'humanité ?
Quand je vous écoute, j'ai l'impression de parler avec un moine qui vivrait dans une abbaye et qui consacrerait sa vie aux autres.
Moi, je suis ni croyant ni pratiquant. Comme je disais, je crois en l'humanité et j'essaie de faire ressurgir toutes ces valeurs en dehors de la cité du Château de France.
Mais là, les cris qu'on entend, c'est une école ?
C'est l'école des Hauts-Bâtons qui est juste à côté. Il y a des enfants du centre de promotion familiale qui sont dans cette école.
Mais alors, ça s'appelle la cité de la promotion familiale ?
La cité s'appelle la cité du Château de France, appelée par les habitants le 116. C'est l'ancienne boîte aux lettres du camp des Sans-Logis, mais qui est toujours restée le 116, même pour les jeunes, les nouvelles générations, ça s'appelle encore le 116.
Donc les gens disent, on vit au 116, nous.
Voilà, on est au 116, rendez-vous au 116, mais sinon c'est la cité du Château de France.
C'est drôle parce que nous, à France Inter, on est au 116 Quai Kennedy, donc il y a aussi le 116. Et donc, concrètement, vous faites quoi dans la journée ?
Moi, je suis principalement avec les enfants, de 6 à 12 ans, et on fait tout ce qui est soutien extrascolaire, donc on fait accompagnement... pour inscrire les enfants au sport avec les parents, toujours en lien avec les parents, on fait jamais les choses seules. Ouais. Au sport, au centre de loisirs, aux colonies de vacances, et sinon on fait des activités sur place. On fait de la peinture sous la pédagogie de Arnaud Stern. On fait du théâtre avec des intervenants professionnels, du sport.
C'est quoi la pédagogie Arnaud Stern ?
C'est un monsieur qui est à Paris maintenant et qui donne encore des cours, qui est toujours vivant, et c'est principalement sur le principe du non-jugement, c'est de faire pour soi et sans attendre un retour de l'autre. Quand un enfant demande est-ce que c'est beau, tu aimes, ben nous on va répondre à l'enfant est-ce que toi ça te plaît ? Pour que ça sorte de lui-même, que ça soit, on travaille l'estime de soi.
Très bien. Bonjour monsieur, je peux parler avec vous ?
Oui.
Vous habitez ici ?
Oui.
Et alors, j'ai vu que vous venez saluer Guillaume.
Oui, Guillaume on se connaît parce qu'il connaît mes enfants. C'est lui qui s'occupe des enfants au pivot culturel. Et il est là, toujours actif, faire des actions pour les enfants. Et à cet effet que je le connais, monsieur Guillaume.
Vous dites monsieur Guillaume ?
Oui, monsieur Guillaume, par respect, c'est normal.
Et vous, vous appelez comment ?
Monsieur Boukhors Abdelhaq.
Et votre prénom ?
Abdelhaq. Et j'habite dans la cité depuis 2010. Ça fait 3 ans que je suis là, j'ai 4 enfants. Et je suis super content que je suis hébergé dans ce mouvement depuis 2010. Ils sont là pour la promotion familiale et jusqu'à quand on va se mettre sur nos pieds quand même pour trouver un logement définitif. Alors je suis super content.
Vous dites sur nos pieds parce qu'aujourd'hui vous avez le sentiment d'être à genoux ?
Oui, c'est normal qu'on est sur nos genoux pour le moment sans travail. Pour cela que j'ai dit ce mot.
Vous cherchez du travail dans quel domaine ?
Moi je trouve l'essentiel que c'est un travail. Le premier que je trouve, je m'engage, je travaille. C'est juste le travail.
C'est quoi vos métiers ?
Moi, mon métier, normalement, c'est bureautique dans mon pays, mais comme ici, j'ai pas encore opté à la nationalité française, donc je fais chauffeur-livreur. Je suis en train de préparer un dossier pour une formation de chauffeur-taxi et j'espère que les choses vont se réaliser.
Et votre pays ?
C'est l'Algérie.
Et là, vous êtes à l'arrêt du bus, vous avez la cravate, la veste.
Oui, toujours, je me comporte comme un Français, c'est normal, je m'habille.
Attendez, dites pas ça, moi. Je suis Français, mais j'ai pas mis de cravate, hein, j'ai rien.
Non, mais par contre, moi, j'ai fait l'école nationale d'administration en Algérie, et c'était le système nous oblige de se comporter avec une cravate, un costume, ouais.
C'est l'ENA aussi ?
C'est l'ENA, oui, exactement. C'est l'École nationale d'administration. Donc,
mais en Algérie.
J'ai commencé petit, oui. Ouais. Né en Algérie, j'ai commencé petit, comme j'étais aussi un ancien militaire. Donc,
vous avez l'habitude de la cravate ?
L'habitude de la cravate avec l'uniforme ouais. Normal.
Bon, écoutez, j'espère que vous allez trouver du travail et que...
Voilà. On va trouver notre bonheur.
Voilà.
Un temps de Pouchon, c'est terminé pour aujourd'hui, mais on se retrouve demain.
France Inter, partenaire de l'exposition « Les impressionnistes en privé, sans chef-d'œuvre de collection particulière », actuellement au musée Marmottan-Monet à Paris. Pour fêter son 80e anniversaire, le musée rend hommage aux collections privées. L'exposition offrira au public l'opportunité unique de découvrir des tableaux exceptionnels, pour la plupart jamais vus. Manet, Renoir, Monet, Cézanne, Caillebotte, Berthe Morisot, Eva González. Retrouvez les impressionnistes en privé dans les émissions de France Inter et sur franceinter.fr.
Vous écoutez France Inter, il est 16h. Les informations, Laetitia Gaillet, bonjour.
Bonjour, on saura dans une demi-heure qui seront les nouveaux secrétaires d'État qui accompagneront donc les 16 ministres. D'après l'entourage de François Hollande, c'est prévu pour 16h30 cet après-midi. Une douzaine vont être nommés, ça c'est ce qu'a dit Manuel Valls ce matin. Des parlementaires affirment qu'Harlem Désir quitterait ses fonctions à la tête du Parti Socialiste pour prendre un portefeuille. Il serait ainsi remplacé par Jean-Christophe Cambadélis. Ce n'est pas une solution, selon Jérôme Guedj, selon le député de l'aile gauche du PS. Il faudrait plutôt une direction collégial par intérim, il ne faut pas, dit-il, déposséder les militants. Vladimir Poutine met en garde aujourd'hui l'Ukraine sur ses livraisons de gaz. Le président russe avertit Kiev qui refuse de payer le nouveau prix, que le soutien à l'ancienne République en est du coup menacé. Il ne pourra durer éternellement, dit encore Vladimir Poutine. Pour l'instant, le patron du Kremlin demande à Gazprom de s'abstenir d'exiger un prépaiement pour ses livraisons. Kiev a accumulé plus de 2 milliards d'impayés. Il attend le résultat, Vladimir Poutine, des prochaines négociations. Russie, États-Unis, Ukraine et Europe doivent se retrouver la semaine prochaine. D'ici là, sur le terrain, la tension monte dans l'est de l'Ukraine. Des bâtiments pro-russes, continuent d'occuper des bâtiments publics, notamment dans la région de Lugansk. L'armée algérienne dit aujourd'hui avoir mis au jour une cache d'armes et des munitions près de la frontière avec le Mali. Il y avait des fusils automatiques, des fusils mitrailleurs et plus d'un millier de cartouches. Le bon point de l'Iran, relevé aujourd'hui par l'Agence internationale de l'énergie atomique, Téhéran coopère avec les inspecteurs de l'AIEA. Conformément à l'accord intérimaire sur son programme nucléaire, elle répond à leurs interrogations. Le 24 novembre dernier, l'Iran a accepté de limiter son programme en échange d'un assouplissement des sanctions économiques qui la touchent. Un nouveau cycle de négociations s'est achevé donc aujourd'hui à Vienne en Autriche, et ce qui fait dire à Catherine Ashton, la chef de la diplomatie européenne, qu'on est en train de passer à une nouvelle étape. Les policiers de Cassino, au sud de Rome, confirment cet après-midi avoir ouvert une enquête préliminaire dans l'affaire Agnolet. Ils ont été aiguillés par les déclarations de Guillaume Agnolet cette semaine à la cour d'assises de Rennes. Le fils de l'accusé, Maurice, affirme que c'est son père qui a tué Agnès Leroux. Il le lui aurait dit. Les deux amants étaient partis en 1977 faire du camping en Italie, donc à Cassino, et c'est là que les faits se seraient déroulés. Ces déclarations ont donné lieu à un véritable psychodrame ce matin lors de l'audience. Sa mère, en pleurs, juge les déclarations de son fils rocambolesques et totalement irréalistes. Une vingtaine d'élèves d'un lycée près de Pittsburgh, en Pennsylvanie, aux États-Unis, ont été poignardés aujourd'hui. Trois auraient été sérieusement touchés d'ailleurs et transportés dès leur arrivée à l'hôpital au bloc opératoire. L'assaillant, un élève de l'établissement, a été interpellé, mais toutes les écoles alentour ont quand même été fermées. Il aura fallu 2 ans de travail avec les autorités allemandes pour accéder à la demande d'un ancien résistant français. Louis Bertrand est mort l'été dernier à Belfort. Et dans ses dernières volontés, il avait exprimé le vœu que ses cendres soient déposées à côté de la fosse commune du camp de Langenstein-Zwieberge. Il souhaitait ainsi rejoindre ses camarades de détention. Ce sera chose faite vendredi. Vous écoutez France Inter, il est 16h03.
Tous les samedis à partir de 20h, le grand rendez-vous live de France Inter, présenté par Vali.
Rendez-vous cette semaine dans Live Me Do au studio 105 avec le rhythm and blues old school de Nick Waterhouse. Without the net she thinks is under her. Oh, bon, bon, bon. Le rockabilly teinté d'électro de Mustang. Et un pur moment de rock'n'roll psyché de Brian Jonestown Massacre.
Live Me Do. Pour assister à l'enregistrement de l'émission, rendez-vous ce soir à partir de 18h30 devant la porte B de la Maison de Radio France. Ou réservez dès maintenant vos places en vous connectant sur franceinter.fr.
Le Crédit Mutuel donne le la à la musique sur France Inter.
France Inter.
La voix est libre.
Bonjour Frédéric Lodéon.
Et bonjour Laetitia Gaillet, on vous retrouve à 17h pour d'autres informations.
A tout à l'heure.
Carrefour de l'Odéon. Bonjour à tous et merci d'être avec nous. Dans cette émission, comme dans d'autres émissions consacrées à la musique dite classique, on parle beaucoup du violon, du piano, de la flûte, du violoncelle, maintenant de plus en plus aussi du chant bien sûr, et puis certains instruments populaires qui échappent parfois à l'exposition, à la mise en valeur, comme la mandoline. Alors il y a 2 sortes de mandolines, une mandoline napolitaine qui est peut-être la plus répandue, une milanaise aussi, plus douce, jouée sur des cordes en boyau. La napolitaine, ce sont des cordes doubles et métalliques, et j'ai envie de vous faire entendre un premier prélude pour mandoline d'un certain Raffaele Calace, napolitain né en 1863. Son père était fabricant d'instruments, donc luthier, et puis aussi musicien. Il a suivi la destinée paternelle, Calace, et voici donc un peu de cette virtuosité. Il faut que la main droite suive, vous savez, il n'y a pas d'archet, donc pour faire tenir le son, il faut que la main droite aille et vienne tenant un plectre, un petit objet en corne, en bois, ou quelquefois aujourd'hui en plastique pour donner l'impression d'un son tenu, en tout cas répété de telle manière que ça donne une impression de tenue. Et nous allons entendre le jeune virtuose Julien Martineau. Thank you. La conclusion du premier prélude pour mandoline de Raffaele Calacci, interprété par Julien Martineau à la mandoline. Vous pourrez entendre ce jeune virtuose avec d'autres jeunes musiciens. Si vous êtes dans la région de Toulouse, ce sera lundi 14 avril à 20h30 au fameux auditorium Saint-Pierre des Cuisines, bien connu des mélomanes entre autres. Et il y aura Haydn, la symphonie La Passion, en ces temps de Pâques, enfin on y est presque, ça tombe bien. Ça n'a pas été fait par hasard évidemment. Concerto pour mandoline de Hummel, le proche de Mozart, élève de Mozart, et puis de Mozart lui-même, la fameuse 40e symphonie. Et il y aura Julien Martineau, vous venez d'admirer, je suppose, et puis Claude Roubichou à la direction. Donc c'est l'orchestre Mozart, Toulouse, midi, Pyrénées, lundi à 20h30, auditorium Saint-Pierre des Cuisines, chers amis. Et pour réserver, bah évidemment, il y a l'Internet, mais tout le monde n'est pas forcément à l'aise avec cela. Donc sur les tracts, il y a Internet. Et je vous donne le numéro du cher Claude Jacquemin, qui a été régisseur général de l'Orchestre National du Capitole de Toulouse. Et il a été vraiment indispensable et admiré pendant tout ce temps-là. Et il est toujours maintenant au service de la musique. Il rend ses services de faire vivre la musique des jeunes. Là maintenant, vous pouvez aller déranger le cher Claude pour avoir des places ou des renseignements au 06 666 49 870. Je répète, 06 766, je crois que j'ai dit 660. 06 766 49 870. Il y a tellement de 6, hein. Bon, allez, une dernière fois. 06 766 49 870. Et Cécile Bonnet-Desclos va vous mettre ça sur le site, ainsi évidemment que l'adresse internet pour les locations. C'est ce qu'il faut faire pour avoir des billets pour réserver pour ce beau concert plein de jeunesse. Alors, Beethoven, il s'est intéressé à la mandoline, lui aussi bien sûr, mais c'est pas ça qui va nous faire nous occuper de lui maintenant. C'est une autre initiative, ça va se passer à Chambéry. Voyons, on va dans les régions aujourd'hui, et donc mardi 15 avril à 20h à l'Université de Savoie, Jacob Belcombette, il y a un talk récital, comme dit l'inventeur de ce moment de musique et de parole, Giovanni Bellucci, grand pianiste italien comme son nom l'indique. Donc